France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
Si l'on cherche l'origine du contentieux entre l'Algérie et la France, dont on nous dit que c'est la crise diplomatique la plus violente depuis l'indépendance, on remonte en général aux déclarations d'Emmanuel Macron sur le Sahara occidental. On est en octobre. Le président français réaffirme le soutien de la souveraineté marocaine. Immense point de crispation. L'écrivain Boualem Sansal en fait les frais. Il attend un jugement définitif. C'est 10 ans de prison qui a été requis jeudi contre lui pour atteinte à l'intégralité territoriale. Et puis viennent aussi se greffer là-dessus les débats sur les OQTF avec un Bruno Retailleau qui met sa crédibilité politique dans la balance, dans le contexte à la fois de la présidentielle et de la course à la présidentielle. Mais si on est honnête, on sait combien il faut remonter bien plus loin que cette histoire de Sahara occidental, combien les crispations sont régulières, de moyennes à très aiguës, des cycles de turbulence où les contentieux coloniaux ressortent et s'entremêlent aux sautes d'humeur de notre vie politique comme de celle de l'Algérie. Notre histoire commune, les Algériens, les harkis, les pieds noirs, les silences sur la guerre, les silences sur la conquête de l'Algérie, parfois apaisés par les historiens avant qu'une déclaration une autre, ça a été le cas en 2021 puis en 2023 déjà, ne viennent tout remettre en cause ou pas loin. Nous sommes là devant des affrontements de récits où tout est à fleur de peau. Alors on fait comment? Comment on se rabiboche? Est-ce qu'on le fait? Et surtout vous qui êtes franco-algérien, qui avez des liens de part et d'autre de l'Algérie, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette querelle ou est-ce que vous la fuyez? Pour information, tous les auteurs, autrices, acteurs de la vie publique franco-algériens que nous avons essayé de contacter pour participer à cette émission ont poliment décliné. Évidemment, on ne leur en veut pas une seconde, ça dit à quel point ce sujet récurrent entre la France et l'Algérie est un sujet boomerang. Ça veut dire qu'on craint toujours de se le prendre en pleine figure en retour. Si on l'aborde, c'est le téléphone sonne ce soir. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Farid, vous êtes le premier, vous êtes à Lyon et vous êtes le bienvenu. Bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute.
D'abord, je tenais à vous remercier pour votre émission et plus généralement vos émissions. Quand on me demande de réagir en tant que franco-algérien sur la situation actuelle, moi j'ai envie d'expliquer que c'est un énième chapitre qui est adressé aujourd'hui aux franco-algériens, mais plus généralement aux personnes issues de l'immigration ou descendants d'immigrés ou descendants de religions musulmanes, et que finalement c'est qu'un nouveau chapitre dans un nouveau... commentaire négatif sur les populations issues de migration ou de différentes religions que du catholicisme.
Vous êtes né en quelle année, Farid, pour avoir
89.
Une idée ? En 1989, donc vous êtes encore un jeune homme. Et du coup, vous le vivez comment ? Est-ce que ça vous heurte ? Vous avez l'impression qu'il faut que vous expliquiez à chaque fois ou est-ce que vous vous dites « Non, mais c'est bon, j'ai pas envie d'en parler ». Comment ça se passe alors pour vous, Farid ?
Pour ma part, moi, je fais preuve de beaucoup de résilience. C'est-à-dire que c'est ce que j'essaie d'expliquer. Ce chapitre, pour moi, il n'est pas nouveau. Chaque année, à chaque programme présidentiel, à chaque nouvelle élection, on entend des commentaires négatifs, soit sur l'Algérie, soit sur le Maghreb, soit sur la migration. Et en fait, ça fait partie d'un global qui me passe un peu au-dessus.
Ouais, donc dos rond en attendant que ça passe, c'est ça que vous dites, Farid, en fait.
À peu près.
Merci beaucoup, merci de votre appel et merci de participer à ce téléphone sonne pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Il y a Benjamin Stora. Bonsoir, monsieur Stora.
Bonsoir.
Vous êtes historien spécialiste de l'Algérie, bien sûr, auteur notamment de France-Algérie, Les Passions douloureuses aux éditions Espace Libre. L'Algérie en guerre aussi, ça c'était à l'archipel. Vous avez été aussi l'auteur de ce fameux rapport sur les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d'Algérie. Thomas Legrand est là également. Bonsoir Thomas.
Bonsoir.
Merci d'être là. Vous êtes éditorialiste politique et producteur de l'émission Enquête de politique, ici même, bien sûr, sur France Inter. Benjamin Stora, je voudrais bien votre avis sur le ressenti de Farid. Quelque chose qui dit, de toute façon, c'est toujours la même chose. Et ça, c'est la crispation électorale. Il faut juste faire le dos rond. Attendre que ça passe.
Oui, effectivement, il y a chez ce qu'on appelle les franco-algériens, c'est-à-dire les personnes qui sont soit nées en Algérie, soit qui sont nées en France de parents algériens, soit qui sont arrivées avant 1962, au temps de l'Algérie française, ou qui sont nées après, bien sûr. Ça fait beaucoup de monde. Et il y a une sorte d'incandescence permanente autour de cette question. Alors, apparemment, la question algérienne a l'air de ne pas exister dans la société française quand tout est calme. Et lorsque, disons, tout d'un coup, il y a une déclaration, un geste, une mesure un personnage qui surgit, tout explose à nouveau, et à ce moment-là, on tire le fil et tout revient à la surface des mémoires, des polémiques, des discussions intérieures, bien sûr, au niveau politique. C'est dire à quel point, 60 ans après l'indépendance de l'Algérie, les plaies restent encore très à vif, quoi, sur tous les groupes porteurs de mémoire. Alors évidemment, beaucoup de gens ne se sentent pas forcément concernés par cette histoire. Mais le fait est, c'est que dans la politique intérieure française, comme dans la politique intérieure algérienne,
exactement,
il y a ce recours permanent, perpétuel, à l'histoire. Mmh. C'est-à-dire que cette histoire longue, cette histoire ancienne entre la France et l'Algérie, on le sait, 132 ans de colonisation, 60 ans déjà que l'Algérie est indépendante, mais ce recours perpétuel à l'histoire comme une sorte de marqueur identitaire, comme outil de référence permanent sur le plan du vocabulaire politique entre les deux rives de la Méditerranée, eh bien, pour certains, ça lasse, ça fatigue, ça épuise. Et puis pour d'autres, au contraire, c'est un moyen d'existence, un moyen de combat politique.
Le recours à l'histoire, toujours Thomas Legrand, moi je voudrais savoir pourquoi effectivement à chaque période électorale on va chercher ce recours à l'histoire, ou est-ce que finalement c'est, j'allais dire, est-ce que c'est neuf, mais je sais en préparant cette émission que c'est loin d'être neuf.
C'est le recours. L'histoire, ça charrie beaucoup de symboles, et les symboles... les symboles, les souvenirs, c'est facile à manipuler quand on poursuit un agenda politique particulier. Le recours à l'histoire, mais sans les historiens. Mmh. Alors nous, on fait venir Benjamin Stora, mais le débat politique et médiatique sur les questions d'histoire s'enflamme toujours avec des polémistes, et les historiens sont pas là. Et on ne fait pas assez référence, on ne va pas assez voir, sauf évidemment à France Inter, à France Culture, à Radio France, ça on le fait beaucoup, dans toutes nos émissions, la bien comprise, on prend des historiens, on leur demande leur expertise. Un petit peu, comme vous savez, quand on parlait du vaccin, il y a des moments où on s'est arrêté, on disait, bon écoutez, il y a un consensus scientifique autour du vaccin. 98% des scientifiques trouvent que le vaccin c'est une bonne chose, donc on
donc vous dites qu'il y a un consensus historique.
Il y a un consensus historique sur la conquête de l'Algérie par la France, sur les atrocités, les horreurs qui ont été faites. Il y a un consensus historique qui est établi, notamment par Benjamin Stora, mais par d'autres. Il m'a rappelé tout à l'heure, avant de rentrer dans ce studio, ses livres à l'édition de l'Observatoire dans les années 90, où tout ce qui est dit maintenant, tout ce qui est encore mis en question sur les horreurs faites par...
Il est censé avoir été expurgé déjà.
Oui, c'est expurgé. Et nos politiques, comme en Algérie, alors en Algérie, c'est même pas au moment de toutes les élections, c'est tout le temps, c'est en permanence. Oui. Les généraux algériens qui sont au pouvoir sont en permanence en train de remuer cette histoire, en train de la manipuler. Il y a une sorte de concours victimaire, mais en même temps, il s'est passé des choses que nous, on ne reconnaît pas. On a commencé à reconnaître, grâce notamment au travail de Benjamin Stora, qui était patron de ce rapport, et Emmanuel Macron a commencé petit à petit, d'ailleurs, à reconnaître. Mais c'est vrai, on pourra en reparler, le cas Retailleau est le dernier cas d'utilisation, pour des raisons précises qu'on pourra préciser peut-être plus tard dans le débat.
C'est là que nous emmène en partie Malika, qui est à Marseille. Bonsoir Malika.
Bonsoir.
On vous écoute.
Bonsoir à tous. Oui, alors moi, ma réflexion se porte sur le fait que le cas Retailleau, comme vous venez de le souligner, nous met dans une posture, nous, franco-algériens, comme étant en otage. Une prise d'otage entre ces deux histoires, une prise d'otage entre une rhétorique qui, d'un côté, est assez vindicative et très menaçante, et de l'autre, une posture où on ne répond pas tout de suite et on continue à garder son chemin, sa ligne de conduite. Je ne vois pas actuellement, au vu de la posture des deux présidents, une solution qui puisse arriver, ou du moins une volonté de désamorcer le et les conflits, puisque à chaque fois, on est dans une relance à travers des mots et à travers des comportements. C'est vrai qu'à titre personnel, j'ai j'ai du mal à comprendre pourquoi et comment Monsieur Retailleau, ministre de l'Intérieur, fait une fixette un petit peu sur ces questions qui sont d'ordre des affaires étrangères, d'ordre aussi présidentiel, et pour lesquelles on n'a pas d'avis ni de postulat très précis de la part du président.
Merci beaucoup, Malika. Il y a deux choses, Benjamin Stora. D'abord, il y a l'idée qu'au fond, on a l'impression que jouer sur les tensions, c'est porteur en Algérie, c'est porteur en France, enfin, politiquement, d'un côté comme de l'autre. Donc là-dessus, au moins, là aussi, il y a consensus, porteur d'un côté comme de l'autre. Et au fond, on entend Malika, on entendait Farid tout à l'heure, et c'est peut-être la raison pour laquelle on a eu tant de mal, d'ailleurs, à trouver quelqu'un d'une génération post-62 franco-algérien qui viendrait.
Ils sont très sage et très pondéré.
Et justement, et comme s'il y avait une espèce de comme si on les poussait au fond à faire allégeance à un camp, en fait. C'est ça qu'on demande aujourd'hui, finalement, au Malika, au Farid et à d'autres. Vous, choisis ton camp, camarade. C'est peut-être là que le problème commence, non ?
Oui, bien sûr, c'est l'assignation identitaire. C'est évident qu'il y a cette espèce de procès en assignation identitaire permanent. Je voudrais faire une remarque sur le plan à la fois historique et d'actualité par rapport à ce que vient de dire Thomas Legrand et la position très particulière qu'occupe Bruno Retailleau sur le champ politique français. Vous savez, l'Algérie a été pendant très longtemps des départements français. L'Algérie n'était pas vraiment une colonie, contrairement à ce qu'on croit. C'était des départements français qui étaient gérés par qui ? Pendant très longtemps, par le ministre de l'Intérieur. C'était le ministre de l'Intérieur, au temps de la présence française, qui décidait des affaires algériennes. Alors, moi, ça a résonné en moi. Je me suis dit, voilà que le ministre de l'Intérieur d'aujourd'hui, eh bien, veut se mêler des affaires algériennes. Alors, évidemment, ça a soulevé en moi quelques souvenirs, quelques rappels, comme si un peu on revenait au temps de Robert Lacoste, de François Mitterrand, qui était ministre de l'Intérieur, ne l'oublions pas, en 1954. Donc c'est assez étrange quand même que ce soit ce retour inconscient du refoulé qui voit un ministre de l'Intérieur se mêler des affaires algériennes. Donc vous voyez, il y a cette sorte de... comment dirais-je, de percussion entre l'histoire et l'actualité qui est assez remarquable.
Et c'est la raison, j'imagine, pour laquelle le président algérien, le président Tebboune, en avançant un petit peu quand même dans l'énorme tension d'aujourd'hui, a dit, je crois que la phrase dit que mon unique point de repère, ça y est, je cherchais la phrase, mon unique point de repère, c'est le président Macron, c'est-à-dire il faut essayer d'inverser la tendance, c'est à ça que ça sert ou pas ?
Bah oui, je crois qu'effectivement, le problème, c'est de traiter les questions au niveau d'État à État. Parce que l'Algérie est un État. On peut contester sa politique, son gouvernement, son mode de fonctionnement, l'arrestation de Boualem Sansal. Enfin bref, on peut énumérer toute une série de griefs. Mais l'Algérie est un État, et pas n'importe lequel en Afrique, puisque c'est un pays africain très important qui occupe une superficie géographique la plus grande d'Afrique, et qui a la plus grande frontière méditerranéenne avec l'Europe, et la plus grande frontière saharienne. Donc les intérêts, par conséquent, de la France et de l'Europe, c'est effectivement de s'entendre avec cet État. Donc c'est dans cette relation d'État à État, en termes de géopolitique, qu'il faut envisager la discussion et pas la réduire à des questions uniquement qui seraient celles des influenceurs, des OQTF, etc. Le débat, les relations entre la France et l'Algérie sont beaucoup plus vastes et beaucoup plus importantes que toutes ces questions qui méritent d'être traitées. Je ne dis pas le contraire.
Et est-ce qu'on peut rappeler aussi, Thomas Legrand, peut-être que il y a peut-être eu une occasion, enfin on se souvient des discours d'Emmanuel Macron, d'ailleurs c'était intéressant, on se souvient d'Emmanuel Macron candidat, et d'Emmanuel Macron une fois élu.
Le crime contre l'humanité en 2016.
Exactement, le crime contre l'humanité en 2016 d'abord, et puis un discours un peu plus...
oui, puis des reconnaissances
un petit peu un peu
de la torture.
Un peu plus aplani derrière. Et puis reconnaissance de la torture.
De la reconnaissance de l'assassinat par la France, l'armée française, voilà, de militants...
Ali Boumendjel.
Voilà. Algérien, encore une fois, sur un rapport de Benjamin. Mais, Tebboune, en allant chercher le dialogue avec Emmanuel Macron, il monte à un niveau où il pense qu'il y aura une reconnaissance. Il a mis longtemps, parce que quand Emmanuel Macron a fait tous ses gestes, il n'y avait pas de gestes de l'autre côté.
Oui, c'est bien ce
donc,
qu'on disait.
Donc, c'est un peu facile. Et puis, il faut... Benjamin Stora a tout à fait raison de s'étonner en tant qu'historien avec cette histoire du ministère de l'Intérieur qui était celui qui gérait l'Algérie quand elle était française, mais Il y a quand même des vrais problèmes. Les OQTF, l'Algérie fait pas ce qu'elle devrait faire. Elle devrait récupérer, il y a des décisions de justice, plus. Ces youtubeurs qui tapent sur la France et qui sont manipulés par l'Algérie, l'Algérie est largement coupable. Donc il y a cette réalité-là aussi. Maintenant, Bruno Retailleau, il y a quelque chose de politique. Vous savez qu'en ce moment, pour la droite un peu radicale, l'extrême droite et la partie de la droite dite de gouvernement un peu radicale, dans laquelle on peut mettre Bruno Retailleau, il y a un petit problème en ce moment parce que la guerre de civilisation qu'il théorise et dont il se sert toujours, elle n'est plus trop entre l'Occident chrétien et le monde arabo-musulman. Hein, ces dernières années, c'était ça, instrumentalisé par Zemmour. Mmh. Maintenant, ce qui domine, c'est quand même la guerre de civilisation entre les autoritaires et l'axe Trump, Trump-Poutine, on pourrait rajouter Netanyahou, et de l'autre côté, l'Europe libérale. Et voilà. Et donc, je pense que réactiver une confrontation française versus le monde arabo-musulman via l'Algérie, c'est aussi un agenda politique efficace, pense-t-il, pour Bruno Retailleau.
Benjamin Stora, si on veut retrouver cette relation, essayer que les choses se passent un peu mieux désormais, est-ce que, effectivement, puisque le président Tebboune parle, enfin, dis-moi, mon interlocuteur, c'est Emmanuel Macron, est-ce qu'on a intérêt aujourd'hui, nous, à repartir, justement, sortir du terrain Retailleau, si je puis dire, retourner sur le terrain mémorial, redonner aussi d'autres gages à l'Algérie sur le terrain mémorial, ou au contraire, attendre un autre retour? Qu'est-ce qu'on fait, en fait? Ou est-ce qu'il faut surtout quitter ce terrain, en fait?
Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas, parce que je ne suis pas ministre, ni surtout pas de l'intérieur.
Et politiquement, c'est dangereux, c'est compliqué.
C'est très compliqué. Bien sûr qu'il faut reprendre le fil, pour les raisons rapidement que j'ai indiquées sur l'importance qu'a l'Algérie en termes géopolitiques, c'est évident. Est-ce que ça peut repasser par le mémorial? Je ne sais pas, parce qu'il y a une commission mixte.
C'est le sens de ma question. Est-ce qu'il vaut mieux repasser par le mémorial? Est-ce que c'est un chemin plus...
Est-ce qu'il faut repasser? Je ne sais pas.
Moins épineux.
Je ne sais pas, parce qu'il y a une commission mixte d'historiens qui
était dans le camp de l'Algérie.
Ah ouais. Voilà, la balle était dans le camp de l'Algérie, mais avec la déclaration du président algérien hier, la balle est à nouveau dans le camp de Macron. C'est-à-dire qu'il dit maintenant, c'est à Macron que je veux m'adresser. Que va répondre Macron? C'est-à-dire que, vous voyez, c'est jour après jour qu'on est obligé de discuter de cette question-là. Je ne sais pas s'il faut repartir par le mémorial, parce que beaucoup de gestes ont déjà été faits par les Français.
Il faudrait qu'au moins ces gestes soient reconnus par l'Algérie, parce que Tebboune, le président Tebboune s'adresse à Emmanuel Macron. J'imagine... Moi, si j'étais Emmanuel Macron, je dirais, vous êtes gentil, mais avec tout ce qu'on a fait, est-ce que vous pouvez au moins le reconnaître devant votre opinion publique? Reconnaître que la France a changé, la France a fait tout ce qu'elle a fait de terrible. On le dit, Emmanuel Macron a dit en tant que candidat, crime contre l'humanité, il a reconnu beaucoup d'exactions. C'est peut-être pas assez, pour les historiens, il y a d'autres choses à reconnaître, mais... au moins que devant l'opinion publique algérienne, le
si
président
Tebboune... Ça commence comme ça,
c'est mal barré, mais...
Oui, voilà, c'est mal barré.
Là, tout de suite, je ne le sens pas bien. Les partenaires algériens ne sont pas sont coriaces. Hein.
Là, tout de suite, là, on le sent moyen. Voici Louisa. Bonsoir, Louisa.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Alors moi, je pense que le problème algérien actuellement, franco-algérien actuellement, je suis franco-algérienne, j'ai 60 ans... J'ai vécu, alors dans mon enfance, on parlait de la guerre d'indépendance, les Français, la décolonisation. Je pense que le problème franco-algérien a sa source à l'indépendance de l'Algérie et à la décolonisation de l'Algérie. Je pense que tant que l'on n'aura pas crevé l'abcès de cette guerre et de cette décolonisation, cette haine, cette amour-haine entre les Français et les Algériens existera toujours. Moi, je pense que le nerf de la guerre, ben, c'est la guerre d'Algérie, justement.
Merci, Louisa, pour votre intervention. Benjamin Stora, le nerf de la guerre, et puis surtout, on n'a pas fini de crever cet abcès. Est-ce que on a manqué d'examen de conscience sur la réalité coloniale? C'est ce que nous dit Louisa, y compris aujourd'hui, y compris après vos travaux.
On a commencé quand même, Thomas Legrand venait de dire, on a quand même entrepris beaucoup de pas en avant quand même. C'est évident, Maurice Audin, Ali Boumengel, Larbi Ben Midi, l'ouverture des archives, le statut de l'émir Abdelkader à Amboise, la reconnaissance du massacre du 17 octobre 61 pour les travailleurs algériens à Paris. Et je pourrais continuer comme ça, y compris sur Gisèle Halimi. Mais effectivement, votre correspondante a raison. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment diffus, confus, permanent, perpétuel.
Qu'on n'a pas fait le travail de mémoire, les uns comme les autres.
comme une sorte de secret de famille non avoué à l'intérieur des deux sociétés. Ça continue. Je le constate, parce que ça fait 50 ans que je travaille sur cette affaire, que la connaissance historique a considérablement progressé pendant toutes ces années, bien sûr, mais je constate qu'on reste encore dans cette sorte de, j'allais presque dire, de mystère autour de la non-reconnaissance de ce qu'a pu faire la France en Algérie, de ce que les Algériens ont pu faire eux aussi dans cette guerre. Parce que cette histoire de l'Algérie, c'est aussi une guerre franco-algérienne, bien sûr, mais c'est aussi une guerre civile. Et ça a été aussi un affrontement entre les Algériens, ça a été aussi une mise à l'écart de dirigeants nationalistes algériens qui avaient pris l'initiative de la guerre contre la France, je pense à des gens comme Krim Belkacem ou Mohamed Bouziaf ou Mohamed Khidr, et qui ont été assassinés. Oui. C'était les chefs historiques de la révolution algérienne.
Ils se sont engagés dans la libération de l'Algérie avec les idéaux, universalistes
et ne parlons pas des leaders encore avant algériens comme Messali Hadj, Ferhat Abbas, qui étaient avant ceux dont je viens de parler, et qui ont été longtemps mis au secret de l'histoire intérieure algérienne. Et du côté français, le fait que François Mitterrand est devenu président de la République en 1981, quand même, sans qu'on sache véritablement qu'il avait été ministre garde des Sceaux en 1957,
et qu'il avait voté la mort
de Yvetot et de 45 militants nationalistes algériens. Nous sommes allés voter, disons, en 1981, ça a déjà été démontré dans un livre de Thomas Legrand, d'ailleurs, il y a longtemps, en 1994, La main droite de Dieu, si mes souvenirs sont bons. Eh bien, il y a le sentiment que, du côté de la gauche comme de la droite, on n'a pas purgé ces questions-là. Preuve, je dirais une seule preuve, c'est ce qui s'est passé autour de la déclaration de Jean-Michel Apathy.
C'est-à-dire que lorsqu'il a déclaré sur,
ce que tout le monde sait maintenant, je vous assure qu'il y a énormément de gens qui disent « je ne savais pas la conquête coloniale de la France au XIXe siècle ».
Mais enfin, je veux dire, Benjamin Stora, on ne l'a jamais appris.
On l'a jamais appris, mais enfin.
Moi, j'ai pas appris ça dans les livres d'histoire.
Moi, je veux pas accabler mes confrères qui disaient après, on ne savait pas. Jean-Michel Apathy avait raison, mais moi, je savais pas. Nous, notre boulot, quand on sait pas, c'est de demander à ceux qui. Nous, on sait pas tout, mais quand on sait pas, on demande à ceux qui savent. Et ceux qui savent, ce sont les historiens. Il se trouve que sur cette question, il y a un consensus, encore une fois, d'historiens. Donc, c'est inacceptable de dire on ne savait pas quand on est journaliste et qu'on s'occupe d'une tranche, soit on ne sait pas et on demande à ceux qui savent, mais on ne dit pas « Ah bon, j'ai... » Et Jean-Michel Apathy savait très bien, et il l'a très bien dit, et ce qu'il a dit, c'est la vérité, et normalement, le lendemain, mais je ne veux pas donner de leçons, en tout cas, nous, on aurait fait ça, le lendemain, s'il y a un problème, on fait venir des historiens, et on dit « Alors, chers auditeurs, vous n'avez peut-être pas compris, on va vous faire le truc. »
Mais enfin, on sait bien dans l'histoire, de notre histoire très très récente, Benjamin Stora, effectivement, vous avez parlé de François Mitterrand, quand il arrive en 81, mais on se souvient que la visite d'avant, c'était celle de Giscard. Giscard s'est particulièrement mal passé.
Oui, il y avait cette phrase célèbre de Giscard, « La France historique salue l'Algérie indépendante ».
Voilà, super. Il y a eu un après aussi, il y a eu ce moment, c'était en 2005, avec cette loi qui devait exalter les aspects positifs de la colonisation. Enfin, je veux dire, elle a raison, notre amie Louisa, quand elle dit que...
Il y a toujours des aspects, il y a encore plein d'hommes politiques,
évidemment,
et femmes politiques qui parlent des aspects positifs de la colonisation. Bruno Retailleau, compris.
Mais elle a raison, notre amie Louisa. On ouvre une marmite, si je puis dire, et puis on la referme immédiatement, et puis on ouvre et puis on ferme. Et c'est vrai qu'on n'a rien soldé du tout, pour être honnête.
Le général de Gaulle avait, en 1962, déclaré cette phrase célèbre que les historiens connaissent, « Il est temps de refermer la boîte à chagrin ». Et la boîte à chagrin, en fait, ne s'est jamais refermée. C'est-à-dire que les passions enfouies, douloureuses, secrètes, inavouées, comme des secrets de famille, ont continué de fonctionner dans la société et dans les sociétés. Et donc, c'est un travail qu'il faut sans cesse mener, en fait. C'est-à-dire que c'est pas une décision définitive une fois pour toutes par une histoire officielle qui va régler la question. C'est un travail citoyen, un travail permanent, donc politique. Et moi, ce que je regrette, quand j'ai fait le rapport dont on a parlé tout à l'heure, c'est qu'aucune force politique en tant que telle ne m'a soutenu. Ni la droite, ni la gauche. Personne n'a soutenu. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des considérations politiciennes.
Il y a quelque chose d'électoral qui est très compliqué, c'est les pieds noirs, les descendants des pieds noirs, c'est quelque chose de compliqué parce que eux ne sont pas des colons. C'est pas, ils n'ont rien à voir avec la colonisation des années de la 1840-1830. Ce sont des immigrés qu'on a été chercher en Espagne et en Italie et qui ont été faits français bien plus tard. Ouais. Et du coup, eux, en une fois qu'ils sont en France, on les assimile et ils se retrouvent à devoir défendre un passé qui n'est pas le leur. Et il représente un capital électoral très compliqué à gérer. Ouais.
Alors,
toujours, leurs descendants aussi, bien sûr.
Séverine, justement, Carpignan, est avec nous. Bonsoir Séverine.
Bonsoir.
On vous écoute Séverine.
Oui, monsieur, en fait j'étais...
Vous êtes à Metz, donc vous n'êtes pas au Moulin, vous êtes à Perpignan, vous n'êtes pas à Béziers, tout va bien. Allez-y, on vous écoute.
En fait, j'étais dans ma voiture tout à l'heure et le thème m'a beaucoup interpellée parce que donc moi j'ai ma mère qui était noire. J'ai eu l'occasion d'aller en Algérie avec elle il y a un certain temps et on avait vécu un voyage absolument incroyable et beaucoup de connexions avec les gens là-bas. Et puis donc j'ai cette histoire-là. Et il se trouve que j'y suis partie travailler aussi moi-même quelques années, pas longtemps après. Et en partant là-bas, j'ai hésité. Je me suis posé la question de dire est-ce que en arrivant, je dis que j'ai des origines pieds-noirs, comment ça va être perçu? Et en fait, ça a été absolument limite, j'ai été encore plus accueillie. Mm-hmm. En fait, comme quelqu'un de la presque de la famille. Et mm-hmm. j'ai pu vivre la formidable nature humaine des gens là-bas. Ça a été une expérience incroyable. Et donc, du coup, je me reconnais dans tout ce que vous avez dit depuis le début. Et j'avais envie d'apporter ce témoignage aussi sur les liens humains profonds qui existent toujours entre ces deux pays, malgré cette histoire chargée de blessures vives.
Merci beaucoup, Séverine, pour votre témoignage. Benjamin Stora et Thomas Legrand, d'ailleurs, on disait tout à l'heure, au début de cette émission, qu'au fond, jouer sur les tensions, c'était porteur à la fois pour la France et pour l'Algérie. Moi, en écoutant le témoignage de Séverine, mais aussi d'autres, je me dis, mais l'Algérien, aujourd'hui, d'Alger ou d'ailleurs, il en pense quoi, en fait? Est-ce que lui aussi est dans cet état de tension-là, ou est-ce que c'est vraiment une histoire de deux pays et de deux politiques qui s'affrontent et de deux mémoires?
C'est très difficile de parler à la place de toute une
évidemment,
société.
Évidemment, j'entends bien, mais est-ce qu'on sent une société qui, elle aussi, est partagée ou pas?
Bien sûr que la société est partagée. Il y a toute une partie de la société qui dit, bon, bah, c'est du passé, la politique sert à légitimer le pouvoir en place, donc il faut passer à autre chose. Mais, si vous vous attaquez, disons, à l'Algérie en tant que nation, il y a du nationalisme.
Ouais.
Il y a du nationalisme. Il faut pas croire que tout ça s'efface brusquement.
Quand vous
ça c'est des questions
très
importantes.
Quand vous parlez aux journalistes algériens qui sont en France et qui ont été chassés d'Algérie, il y en a qui ont été chassés, qui ont dû partir à cause au moment des années terribles, des années noires, à cause de l'islamisme ou à cause de c'est une dictature en Algérie. Ceux-là disent que la population algérienne, elle est quand même abreuvée en permanence de diabolisation de la France. Jamais personne dans les médias, les grands médias algériens, n'a dit tout ce qu'il y a dans le rapport de Benjamin et tout ce que le président français a reconnu. Ça se dit très peu. Et Benjamin Stora se fait régulièrement agonir d'injures dans la presse algérienne.
Ça dépend de la presse. C'est compliqué, l'Algérie, parce qu'il y a des nouvelles générations qui arrivent, c'est un pays très jeune.
Vous êtes en photo avec Jean-Michel Apathy dans un journal hier ou avant-hier, parce que j'ai vu passer sur le réseau.
Donc tout dépend des situations, tout dépend du moment, mais il y a effectivement d'abord, je voudrais dire une seule chose, c'est qu'il y a des liens humains quand même qui sont très forts. Ça c'est très très important. Le fait du sentiment d'appartenance à une terre, à une histoire, quel que soit disons le mouvement qui a pu être, disons, de ses parents et ses grands-parents, c'est quelque chose de très fort. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que le renouveau des études sur l'Algérie, sur tout ça, vient des jeunes générations en France et en Algérie, de gens qui veulent savoir d'où ils viennent. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Ils cherchent. Ils cherchent dans cette histoire. Il y a des travaux qui existent, il y a des livres qui existent. Et on voit bien qu'à travers cette recherche, cette quête identitaire, c'est pas innocent. Il y a aussi la volonté, non pas de rompre les liens, mais au contraire. Parce que vous savez, moi je suis né dans une ville qui s'appelle Constantine, c'est la ville des ponts. Donc en fait, ils cherchent à construire des passerelles, cherchent à à construire des ponts fondamentalement dans la société algérienne et française, c'est la recherche du passerelle qui domine. C'est qu'est-ce qu'on pourrait partager. Je parlais tout à l'heure de la commission mixte d'historiens français et algériens. La grande question qu'on a eue ensemble, maintenant tout s'est arrêté malheureusement, c'est le partage du savoir. Mmh. C'est-à-dire comment on peut faire pour faire en sorte que le savoir que nous avons pu accumuler puisse circuler d'une rive à l'autre de la Méditerranée. C'était ça le grand enjeu, malheureusement interrompu.
Et effectivement, on n'y est pas très rapidement. On a Elisabeth qui nous écoute et qui dit mais qu'est-ce qu'on peut dire du poids électoral réellement des pieds noirs dans la vie politique française, notamment dans le sud de la France ?
Ça s'estompe, ça fait quand même 60 ans, voilà. Bien sûr, ça s'estompe. Mais vous savez, c'est tellurique, hein, les terres électorales. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des habitus, des habitudes, et c'est toujours implanté, mais ça s'estompe, effectivement.
On a une note vocale, on va la découvrir ensemble, c'est celle d'Estelle.
Bonjour, moi j'aimerais témoigner, voilà, je suis 100% française, haute-savoyarde, aucune origine étrangère, et mariée à un Algérien, 100% Algérien et fier de l'être. On a 3 enfants et quelle douleur de devoir éteindre la radio quand on entend les plus hauts dignitaires de l'État invectivés par les si durs sur l'Algérie. Voilà, j'aime à dire qu'ils sont 200% 100% français et 100% Algériens. Et j'aimerais tant qu'ils en soient fiers et pas qu'ils aient à en souffrir au quotidien.
On remercie Estelle pour sa note vocale.
Encore un pont.
Voilà. Oui. Vous voyez, il y en a des ponts.
Tout à fait. Non, bien sûr. Bien sûr, c'est important de voir qu'effectivement, il y a des gens qui en souffrent, hein, de cette situation, de cette conflictualité, et effectivement, qui ont du mal à écouter des télés, les radios, et alors surtout certaines télés et certains radios, bien sûr, hein, qui toute la journée ne pensent et ne parlent que de ça. Quoi.
Il est évident, nous dit Adrien sur WhatsApp, que les tensions de part et d'autre ont toujours servi d'écran de fumée aux politiques des deux pays. La réconciliation définitive passera également par la repentance française et par une repentance algérienne, notamment sur les troubles des années 90. Mais le tabou, comme le fut celui des crimes de guerre français pendant la période coloniale, est un tabou qui est très fort à dépasser. Est-ce que les années noires algériennes, Benjamin Stora, sont aussi opaques que nos années algériennes, finalement, l'ont été ?
Il y a pas mal de romans qui ont déjà été écrits hein, sur les années de guerre civile intérieure en Algérie. Il y a beaucoup, j'ai pas ici tous les cités, bien sûr plus récemment Kamel Daoud, bien entendu, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. Et les femmes aussi ont beaucoup écrit, Malika Mokaddem, Aïssa Bey, etc. Enfin, je pourrais vous citer beaucoup d'ouvrages, mais vous savez, c'est très difficile parce que c'est une société qui a connu pratiquement une guerre qui est venue percuter une guerre. Mmh. C'est-à-dire qu'à la guerre d'indépendance, qui était aussi une guerre civile, est venue percuter une autre guerre civile. Donc c'est pas évident de faire un travail de deuil que vous commencez à peine d'une guerre lorsqu'une autre arrive. Et lorsque l'amnistie s'établit dans les années 2000 et qu'on dit qu'il faut tout effacer. Et là, il faut se remettre en chantier pour reprendre à nouveau et reposséder tous les héritages de mémoire dissimulés du côté algérien, et ça, c'est pas simple. J'ai parlé tout à l'heure de la réappropriation de ce qu'a été les héritages de Messali, de Boudiab, d'Aïd Ahmed, etc. C'était des leaders politiques très très importants, et donc il faut à la fois affronter l'histoire avec la France, bien sûr coloniale, et affronter sa propre histoire. C'est un travail extrêmement lourd hein, pour les Algériens.
Une question Thomas de Paris.
Est-ce que vous pensez, Benjamin, que justement, le gouvernement algérien parle beaucoup de l'histoire avec la France pour ne pas
parler de la sienne.
Enfin, voilà, pour enjamber la sienne.
La question de la rente mémorielle, c'est un
la sienne
terme
des années 90 hein.
que j'ai utilisé moi-même dans mon rapport.
Oui, bien sûr.
Il y a une double
rente mémorielle.
La rente mémorielle du côté français, dont on en a parlé, bien sûr. Et puis il y a la rente mémorielle, bien sûr, du côté algérien. Ça, c'est évident. Mais en même temps, on ne peut pas éviter de parler d'histoire. C'est-à-dire qu'il faut l'affronter. Il faut que les Algériens, eux aussi, s'affrontent avec cette histoire, avec leur histoire. Mais avec la vraie histoire. Vous savez,
avec les historiens.
Parce que le Hirak, en Algérie, c'était des gens qui manifestaient dans la rue avec des portraits de héros assassinés comme Aban Ramdan ou Larbi Ben Midi. C'est incroyable. Mm-hmm. Les jeunes, je parle des jeunes, il y avait un besoin d'histoire dans le mouvement populaire de la jeunesse algérienne des années 90, dans les années 2019, pardon, qui était incroyable pour un historien de voir ça. C'était extraordinaire. C'est-à-dire cette volonté de reprendre possession de sa propre histoire. C'est très important, mais malheureusement entravé par tous les débats politiciens, les rapports d'État à État, etc., etc. Et aussi le fait qu'on n'utilise pas, entre guillemets, le savoir historique.
Effectivement, et alors, vous disiez pour étouffer sa propre histoire, Thomas Legrand, mais étouffer aussi ce moment de 2019-2020 aussi, où on a cru à un moment que l'Algérie était en train de faire son printemps arabe. Enfin, on se souvient très bien, Dieu sait qu'on en a fait des émissions ici, à ce moment-là, et à cet endroit-là, le fameux Irak. Je voudrais qu'on écoute Kader. Bonsoir Kader.
Bonsoir, voilà. Moi je parle pour... vous savez ce que disait Voltaire, je suis contre ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. Bon, je parle pour Boualem Sansal. Bon, moi ça me dérange pas, mais quand il a dit une partie de l'Algérie à partir au Maroc, là il s'est tiré une balle dans le pied, parce que c'est comme si vous disiez avant la Première Guerre mondiale qu'il y a un auteur dise les Alsaciens c'est des Germains, donc l'Alsace doit appartenir à l'Allemagne. Et c'est un gros problème, parce que je reviens d'Algérie et pour eux Boualem Sansal c'est un traître. Donc c'est terrible, mais moi j'ai lu le Serment des Barbares et tout, c'est un grand auteur, mais voilà, donc comme disait Benjamin Stora, il y a un nationalisme aussi de l'autre côté, vous voyez ce que je veux dire.
On a entendu Kader, pardon de vous presser Kader, mais voilà, mais il est très tard, ce qui effectivement évidemment n'est pas censé envoyer Boualem Sansal en prison, on est d'accord là-dessus. Un mot quand même, Benjamin Stora, est-ce que contrairement à ces réquisitions de 10 ans, on est dans un moment peut-être finalement
qui peut
être un moment apaisé, en fait.
Oui, je pense. Bon, on a évoqué tout à l'heure la déclaration du président algérien. On attend la réponse d'Emmanuel Macron. Il y a le procès bientôt de
le bâtonnier aussi a dit on pourrait peut-être trouver un arrangement, etc.
Parce que jusqu'à présent, il faut signaler qu'on n'avait pas de date de procès. Donc là, on a une date de procès. Donc en fonction de la date de procès et de ce que le jugement peut être, il peut y avoir la possibilité d'une grâce présidentielle qui peut intervenir, notamment pour des raisons humanitaires. C'est en tout cas le souhait qu'un certain nombre de gens formulent aujourd'hui.
Peut-être ce qui permettra d'ailleurs de le renouer, le dialogue, de le trouver l'un des ponts de Constantine, si jamais il y avait cette décision-là. Merci à tous les deux, merci vraiment, merci à tous pour vos nombreux appels. À tout de suite.